discothèque virtuelle introduite par ces quelques notes des temps modernes de Charlie Chaplin. Chaque vendredi à 14h45, on vous proposera un ouvrage, soit une parution récente, soit un classique de la littérature économique, des essais qui constituent, selon nous, une bibliothèque idéale pour qui s'intéresse aux grandes dynamiques de l'économie. Et vous en êtes aujourd'hui le premier invité, Daniel Cohen, bonjour.
Bonjour.
Bravo et merci beaucoup d'être venu dans nos studios pour inaugurer cette bibliothèque et pour nous parler de votre dernier essai qui s'intitule « Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse, entre parenthèses, d'une mutation aux éditions Albin Michel ». Alors Daniel Cohen, je le rappelle, vous êtes le directeur du département d'économie de l'École normale supérieure, l'un des membres fondateurs de l'École d'économie de Paris, et vous avez publié de nombreux livres, « La prospérité du vice, une introduction inquiète à l'économie » en 2009, « Homo economicus, prophète égaré des temps nouveaux » en 2012. Et alors votre dernier ouvrage dresse un portrait très sombre d'un Occident désindustrialisé, miné par le populisme, divisé par la montée des inégalités et en proie à des poussées de fièvre xénophobe. Vous partez de ce constat, une civilisation s'est effondrée, celle de la société industrielle. Ce bouleversement, Daniel Cohen, c'est le point de départ de tous les autres.
Je crois, en fait, c'est très simple à dire, mais encore, bon, faut-il avoir le recul que l'on a aujourd'hui, pardon, pour pouvoir le dire aussi simplement, mais je crois que oui, tout simplement, l'errance des 50 dernières années, si on a fêté, célébré le 50e anniversaire de mai 68, et on peut mesurer à l'aune de cet anniversaire combien, en effet, les choses ont changé, je crois que tout simplement, nous avons été les témoins incrédules de l'effondrement de cette civilisation qu'a porté la société industrielle, avec ses ordres, ses hiérarchies, mais aussi ses avantages, qui étaient notamment de donner un rôle central à ce qu'on appelait à l'époque la classe ouvrière, avec ses syndicats, le tout dans un ensemble finalement cohérent, où chacun avait un peu sa place, où la croissance était à peu près également répartie. Il n'y a pas de modification majeure au cours des années d'après-guerre de la distribution des revenus, un petit peu, mais c'est tout à fait négligeable. Et c'est ce monde qui s'est effondré, et c'est ça qui explique en grande partie notre propre désarroi. Je crois qu'on a eu beaucoup de mal à interpréter en temps réel ce qu'était cette société post-industrielle. Le fait même qu'on l'appelle post-industrielle signifie qu'on ne sait pas la définir positivement autrement que par le monde qu'elle a aboli. Je crois que c'est en grande partie l'origine du désarroi qu'on est dans une très large mesure en train tous de constater.
La société post-industrielle se caractérise par l'importance prise par les services, sauf que dans les services, on ne peut pas faire d'importants gains de productivité, donc ce n'est pas comme cela que l'on peut créer de la croissance économique.
C'est exactement le cœur du problème. Cette société post-industrielle, il y a mille façons de la définir, mais je crois que la façon la plus simple, c'est celle que Jean Fourastier avait proposée en son temps, qui s'impose, qui est que, au fond, pendant des millénaires, les humains ont cultivé la terre, c'était les sociétés agraires, puis pendant deux siècles, ils ont travaillé la matière, c'était la société industrielle. Et dès un livre qu'il avait publié en 1948 et qui s'appelait Le Grand Espoir du XXe siècle, il expliquait que le troisième âge, c'était celui d'une société de service où l'humain allait s'occuper de l'humain. La valeur produite dans cette société de service, c'est l'éducation, la santé, le soin aux personnes âgées. C'est une société dans laquelle le bien, c'est le temps que je passe avec quelqu'un. Je vais m'occuper d'une personne âgée, je vais éduquer quelqu'un. Donc, le temps est la valeur du bien produit. Dans une société comme celle-là, sauf à suivre la révolution conservatrice qui dit bah il faut travailler donc toujours plus pour retrouver la croissance, on voit, et il y a quand même des limites, on va pas travailler plus de 24 heures par jour, on voit qu'une société comme celle-là, fondamentalement, si c'est comme ça qu'il faut la définir, ne peut pas croître. Il n'y a pas de croissance possible si la valeur du bien, c'est le temps que je consacre à un client. Et c'est cette contradiction-là, je crois, qui à la fois explique la difficulté de retrouver un idéal de progrès matériel, et en même temps, je crois, c'est ça qui permet de comprendre la transformation que propose aujourd'hui la société numérique qui, de sa manière paradoxale, essaye d'apporter une réponse à ce manque de croissance de cette société de services qui, par parenthèse, je termine juste ce point, pour Fourassier, était une bonne chose. Le fait qu'il n'y ait plus de croissance signifiait qu'on allait s'installer dans un bien-être permanent où la relation à l'autre était dominante. Bref, il pensait que cette disparition de la croissance était le gage d'une humanisation qui, pour lui, était le grand espoir du XXe siècle.
Alors, justement, le numérique, vous en parlez dans Homo Economicus en 2012, vous décriviez un homme assoiffé de croissance et par nature insatiable. Cette fois, le héros de votre livre s'appelle l'Homo Digitalis, qui, individualiste à l'excès, se perd dans les méandres de cette société post-industrielle, déshumanisée, où le travail va devenir une denrée rare. Au fond, qu'est-ce qui sépare l'Homo Economicus de l'Homo Digitalis ?
Eh bien, écoutez, tout simplement, le fait que... Le remède à cette question, comment retrouver de la croissance, en fait, on est en train de comprendre, là encore doucement, ce qu'il est. Pour retrouver de la croissance, lorsque l'objet que l'on traite, c'est l'homme, c'est simple entre guillemets, il faut changer la nature de l'homme. Et il faut le, ici, numériser. Si l'être que je traite n'est plus un corps physique, qui exige une présence physique, mais un ensemble d'informations numériques. Je sais tout de vos pulsions sanguines, je sais tout de vos désirs, je sais tout de votre capacité d'apprendre des langues étrangères, ou des choses comme ça. Alors, un logiciel, un algorithme, va pouvoir, à distance, traiter ce que vous êtes, sans avoir besoin de recourir à la personne qui est en face. Il y a un film que je cite dans le livre, qui est, je crois, très important pour éclairer cet état d'esprit, c'est le film qui s'appelle Her, elle, dans lequel un homme qui a été quitté par sa femme tombe amoureux d'un logiciel, la voix est celle de Scarlett Johansson, et il tombe vraiment amoureux d'elle pour des raisons qu'on comprend. Il tombe amoureux d'elle parce qu'elle sait tout de lui. Elle sait quand il est triste, elle sait quand il est gay. Et évidemment, de temps en temps, la question du corps physique, mais elle-même commande à distance une prostituée pour qu'elle fasse l'amour avec lui tout en lui parlant, elle, et continuant son histoire. Le sommet du film est atteint lorsqu'il comprend qu'elle a cette histoire d'amour, non pas seulement avec lui, mais avec plusieurs milliers d'autres personnes à la fois. Et là, on a résumé ce qu'est la société numérique. Vous allez avoir une relation individualisée avec un logiciel, mais qui en aura tout autant avec beaucoup d'autres. Sachant que la vraie fin, encore une fois, il ne faut pas écouter là ceux qui n'ont pas vu le film, la vraie fin, c'est qu'elle se lasse de lui. Le logiciel se lasse de lui et elle tombe amoureux d'autres logiciels où ils vivent un amour explosif et hyper exponentiel. Et là, on voit en effet que le pacte faustien qui était à l'origine de la société industrielle elle-même et qui était... Je renonce, comme travailleur, avec le travail à la chaîne, etc., à ma part d'humanité. Je répète mille fois les mêmes choses, c'est les temps modernes de Chaplin. Je renonce à ma part d'humanité, au nom de la croissance, parce que c'est comme ça que je vais produire plus de biens, que mes salaires vont augmenter, que j'aurai accès à des biens matériels. Ce pacte faustien, nous sommes en train, contrairement à ce que pensait Fourastier, nous sommes en train de le signer à nouveau. Nous acceptons cette déshumanisation qui était déjà au cœur de la société industrielle pour retrouver... cet idéal, entre guillemets, de croissance. C'est pour ça que je termine là-dessus, pardon. Le titre, Les temps ont changé, c'est un clin d'œil, évidemment, à Bob Dylan et à Diane Tell, mais c'est un peu ironique, puisque, en réalité, je pense que l'équation fondamentale du monde contemporain, déshumanisation, entre guillemets, partielle, contre croissance économique, cette équation reste exactement la même aujourd'hui qu'elle n'était dans la société industrielle.
Avec le développement de l'intelligence artificielle, vous évoquez les rêves de certains milliardaires de la Silicon Valley, prêts à tout pour repousser les limites jusqu'à celles de la mort. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur ces perspectives futures offertes par le transhumanisme, que les deux chercheurs en neurosciences, Daniel Trich et Jean Mariani, qualifient d'imposture scientifique dans un récent essai, une imposture qui risque en outre de créer une humanité à deux vitesses entre les humains augmentés d'un côté et les autres.
Moi, je pense que je crois comprendre que tous les savants sérieux, dont ceux que vous signalez, disent que le transhumanisme est une imposture, que le moment où la machine et le cerveau humain pourront converger est très éloigné, à supposer même que ce soit à la fois possible et souhaitable, mais c'est le genre d'utopie, entre guillemets, de dystopie peut-être, qui prolonge ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'effectivement, on va dans une société où, par la machine, on a une continuation de nous-mêmes. On était, je reprends la métaphore avec le travail à la chaîne, on était à la chaîne avant et on était dans une société de consommation de de masse, production de masse, consommation de masse. Il y a une nouvelle unité systémique qui est trouvée. On est en ligne au travail, on est en ligne dans la consommation et tout ça fait un nouveau système. Mais ce qui est très intéressant derrière ces questions, c'est évidemment que cette société en ligne, cette société algorithmique en réalité, elle est en train de produire ses propres pathologies, sa propre manière de rendre les consommateurs captifs. On est dans une société d'addiction. Netflix est un très bon exemple. C'est fait pour que vous soyez dans un rapport addictif. C'est une société de surveillance, mais la société industrielle d'avant, elle l'était déjà. Tout était fait pour en réalité surveiller, contrôler ce que faisaient les ouvriers. Maintenant, c'est d'une autre manière, mais on retrouve exactement le même type d'unité. Et on fête donc mai 68. Mai 68, on avait dit, Boltanski et Capello avaient écrit un livre très intéressant qui s'appelle Le Nouvel Esprit du Capitalisme, dans lequel ils disaient mai 68, c'est l'unité de deux critiques du monde industriel, une critique sociale, les ouvriers ne sont pas des objets, et une critique artiste. C'est quoi cette société consommation qui nous met devant la télévision? Je pense que la société numérique est en train de nous poser exactement la même question. Il faut une critique sociale. On n'a pas accepté l'ubérisation du monde comme ça, comme si c'était un état de nature. Et il nous faut une critique artiste. Il faut retrouver un sens de la civilisation. Pour le dire bêtement dans des exemples idiots, il ne faut pas accepter que quand vous parliez à quelqu'un, il soit tout le temps en train de pianoter sur son mail. Il faut retrouver distance critique, un peu ce que mai 68 avait voulu faire. Je crois qu'on a ces doubles critiques devant nous à construire entièrement parce que, au fond, les causes et les conséquences sont de même nature.
Pour conclure d'un mot, Daniel Cohen, quel est votre livre économique qui tient une place de choix dans votre bibliothèque à vous? Quel est l'ouvrage de référence pour vous, s'il ne fallait en citer qu'un?
Voilà, alors c'est un livre qui n'est pas un livre d'économie, mais que tous les économistes ont lu, parce qu'il est très important. C'est le livre de Jared Diamond. En anglais, ça s'appelle Guns, Germs and Steel, et en français, il a été traduit un peu bizarrement, De l'inégalité parmi les sociétés. C'est un livre fondamental, je crois, qui commence par une question toute simple. L'auteur, qui est un spécialiste des oiseaux en Nouvelle-Zélande, il a absolument rien à voir, il n'est ni anthropologue ni économiste, est accompagné à son hôtel par son chauffeur néo-zélandais qui lui dit « Mais pourquoi c'est vous qui êtes si riche et pas nous ?» Et il a passé les 10 années qui ont suivi à essayer de répondre à cette question, pour le dire en un mot. Il explique que l'Occident a dominé le monde parce qu'il était le bout d'une civilisation eurasiatique, aligné sur un axe est-ouest, qui fait que n'importe quelle découverte du globe, par exemple la domestication des chevaux, peut se retrouver partout et notamment en Occident, alors que les autres continents sont sur un axe nord-sud, ce qui fait que le lama qu'on trouve en Amérique du Sud n'est jamais remonté en Amérique du Nord, et quand les conquistadors viennent avec les chevaux, ils font découvrir aux Indiens d'Amérique cette chose incroyable. Le cheval.
Merci beaucoup Daniel Cohen d'avoir inauguré cette première bibliothèque idéale de l'écho. On mettra évidemment toutes les références sur le site. Je rappelle le titre de votre livre, Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation, paru chez Albin Michel.